de la puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
De la puce à l'oreille.
Aujourd'hui, De la puce à l'oreille part à la découverte des plantes exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées. Mais qui sont ces belles étrangères? D'où viennent-elles? Qu'ont-elles d'envahissantes? Sont-elles du genre pot de colle, sans gêne ou totalement conquérantes? Quels problèmes posent-elles sur notre territoire et peut-on les contrôler? Je laisse le soin à Jérôme Dao, spécialiste des plantes exotiques envahissantes au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, de répondre à toutes ces questions et de vous dévoiler leurs charmes et leurs secrets.
Qu'est-ce que c'est une plante exotique et envahissante?
En fait, les plantes exotiques envahissantes, ça ne parle pas forcément. Par contre, quand on parle du moustique tigre, du frelon asiatique, de l'écrevisse de Louisiane ou du ragondin, ou de la grenouille taureau, ça parle beaucoup plus. En fait, on est sur les mêmes types de processus, c'est-à-dire qu'on est sur des espèces, animales ou végétales, qui arrivent de territoires lointains, qui s'implantent dans une nouvelle ère et qui posent un certain nombre de soucis du fait des ravages qu'ils peuvent causer ou du fait des concurrences nouvelles qu'ils introduisent sur le nouveau territoire.
Pourquoi on dit qu'elles sont exotiques ?
Exotique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une plante qui n'est pas née ici, qui n'a pas évolué ici. Ici, c'est-à-dire dans notre région, dans notre pays, éventuellement en Europe. Et ça veut dire donc que c'est une plante qui n'a pas non plus coévolué avec la faune du sol, avec les champignons, les mycorhizes, qui n'a pas non plus évolué avec des ravageurs, tout un tas de maladies qui habituellement régulent les populations animales et végétales dans la nature.
Et elles viennent d'où ces plantes ?
Par exemple, pour les plantes que l'on rencontre en Midi-Pyrénées et qu'on considère comme plantes exotiques envahissantes, leur provenance, c'est à 70% des plantes qui arrivent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Ensuite, on a une petite partie de ces plantes qui arrivent d'Asie, à peu près 10%. Quelques-unes aussi qui arrivent d'Afrique, 10%. Et puis, pour le reste, c'est des plantes qui arrivent de territoires lointains en Europe, qui ont dû passer des barrières comme des montagnes, ou qui arrivent d'Australie, par exemple.
Et pourquoi elles sont envahissantes ?
En fait, quand on parle d'envahissantes, on parle de plantes qui vont être capables de se reproduire seules, de se disperser seules et de constituer des populations importantes au point d'être envahissantes dans certains milieux ou par rapport à des plantes avec lesquelles elles pourraient être en concurrence. Donc, une concurrence entre des plantes exotiques envahissantes et des plantes locales présentes dans l'air dans lequel on se trouve.
Et comment elles arrivent chez nous ?
C'est essentiellement l'homme qui est responsable de la venue de ces plantes, soit de manière volontaire, bateau, avion, soit de manière involontaire. On se rend compte, par exemple, qu'il y a un certain nombre de faunes exotiques envahissantes qui arrivent dans les ballasts, par exemple, des bateaux. C'est le cas, par exemple, du sénesson du Cap, qui est une fleur jaune qu'on trouve maintenant extrêmement répandue, notamment le long des routes, en particulier le long des autoroutes. Cette plante est arrivée avec ses graines qui sont restées accrochées dans la laine des animaux, et puis la laine a été importée ici pour être transformée. Dans le sud-ouest de la France, il y a eu toute une industrie lainière qui a été importante. Et puis les eaux de nettoyage ont été rejetées dans la rivière, et puis de la rivière, la plante s'est développée et puis est partie ensuite à la conquête d'un environnement où elle s'est sentie bien.
Pourquoi c'est gênant qu'elles soient envahissantes ?
On parle de trois principales formes de gènes. Quand on parle d'ailleurs de plantes exotiques envahissantes, on ne parle pas forcément de leurs impacts. Parce que c'est quelque chose qui est souvent difficile à qualifier, difficile à préciser, et qui va beaucoup dépendre des acteurs concernés. Un type d'impact, c'est un impact sur la santé humaine. Il y a une plante qui est maintenant connue pour ça, c'est l'ambroisie. L'ambroisie à feuilles d'armoise, qui a un pollen qui est extrêmement allergisant, parce qu'on s'aperçoit que sur le grain de pollen, il y a énormément de petites piques qui provoquent des allergies qui peuvent être graves. On considère qu'il y aurait entre 12 et 15% de la population qui serait susceptible d'être allergique à cette plante. On sait qu'aujourd'hui, la zone la plus touchée en France, c'est la vallée du Rhône. Et elle commence à être présente en Midi-Pyrénées. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des coûts liés à des acteurs. Par exemple, la gestion des bords de route, le maintien d'une bonne visibilité au bord de la route. Ben, si on a une plante qui va faire un feuillage très important, comme par exemple la renouée du Japon, on va se retrouver avec l'obligation de faucher des espaces qui, habituellement, dans les pratiques habituelles, n'étaient pas forcément fauchés de manière aussi importante. Et donc, on a un coût de gestion supplémentaire en lien avec la présence d'une plante, par exemple. Et puis, on peut avoir aussi un impact écologique. Alors l'impact écologique, il est toujours extrêmement compliqué à démontrer, en tout cas en France métropolitaine.
Est-ce que ces plantes, elles peuvent transformer le paysage ?
On dit qu'il y a principalement deux types de plantes envahissantes. Il y a des plantes qui peuvent être transformatrices et puis d'autres qui vont être passagères. Alors une plante transformatrice, c'est quoi ? C'est une plante qui, une fois qu'elle va s'installer dans un milieu, va le transformer. Le milieu ne sera plus comme il était avant. C'est par exemple le cas de la balsamine de l'Himalaya. Donc la balsamine de l'Himalaya, c'est une plante qui est annuelle, c'est-à-dire elle va faire son cycle jusqu'à produire ses graines en une année, ensuite elle meurt. Et donc, mais c'est une plante qui va être capable de monter à 1,50 m, 2 m très très rapidement. Et dans les zones où elle va commencer à s'installer, elle va aussi faire des foyers en peuplement très très dense. Et donc là, bouleverser un paysage... où habituellement les plantes ne montaient pas forcément à ces hauteurs-là et puis ne bouchaient pas le paysage.
Est-ce que toutes les plantes exotiques sont envahissantes ?
Non, toutes les plantes exotiques ne sont pas envahissantes. À l'échelle de l'Europe, par exemple, on considère qu'il y a entre 10 et 12 000 plantes qui ont été introduites. Et sur toutes ces plantes, il n'y aurait qu'entre 10 et 15% qui développent un caractère envahissant. En fait, on est là sur sur le phénomène de la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'on a des espèces qui arrivent, qui essaient de s'installer, certaines arrivent à se reproduire, mais disparaissent quand même. D'autres arrivent à se reproduire et à se maintenir, à maintenir des populations, mais qui ne rentrent pas forcément en concurrence avec la végétation déjà présente, on parle de plantes naturalisées. Et puis d'autres vont arriver non seulement à se reproduire, à s'installer, éventuellement même à changer de milieu, passer d'un bord de route progressivement à de la prairie ou à de la pelouse, et à rentrer fortement en concurrence avec certaines espèces locales, et à ce moment-là, ce seront des plantes exotiques envahissantes. Voilà. Donc toutes les plantes exotiques ne sont pas des plantes exotiques envahissantes. En Midi-Pyrénées, tout un travail collectif a été fait pour essayer de définir qui sont les plantes exotiques envahissantes de notre territoire, de la région, et on est tombé d'accord sur 143 espèces, hein, parmi lesquelles on a à peu près une dizaine d'espèces aquatiques, le reste ce sont des plantes terrestres, et on a beaucoup de plantes herbacées, quelques arbustes et quelques arbres. Voilà.
Je suis enterrée vivante, contente de moi, au-dessus des eaux stagnantes, contemple-moi là. Dame, dame de lotus, dame, dame de lotus, dame.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De la puce à l'oreille, en compagnie de Jérôme Dao du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui nous parle aujourd'hui des plantes exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées.
Dans notre région, qu'est-ce qu'on peut trouver comme plante envahissante ?
Au niveau des arbres, on a par exemple les lentes, hein, qui est un arbre qui peut être très envahissant. Il va d'ailleurs poser un certain nombre de problèmes au niveau des chaussées, au niveau des infrastructures. Lorsqu'il s'implante, son système racinaire défonce un certain nombre de choses, est assez puissant. Et puis en même temps, c'est une plante qui peut être difficile à gérer parce que il produit au niveau de son système racinaire des substances toxiques qui l'aident à être un concurrent redoutable par rapport aux autres plantes et qui rend aussi difficile le fait que si on l'enlève, on peut pas tout de suite remettre quelque chose parce qu'il y a une certaine intoxication dans le sol qui est à gérer. Donc les lentes, un arbre par exemple, pour citer un arbuste, on peut citer le buddleia par exemple, le buddleia du Père David, qui est une plante originaire de Chine qui a été plantée dans les jardins et qui est assez présente dans les berges et qu'on rencontre également en milieu bouleversé de type carrière, de type falaise, où il va arriver à s'implanter et qui peut poser aussi des problèmes au niveau des murs lorsqu'il s'installe ou au niveau de certains ouvrages lorsqu'il s'installe dedans avec un système racinaire aussi assez puissant et qui arrive sur les berges à faire des peuplements qui peuvent être très très importants dans certains secteurs. Et puis on a aussi un certain nombre de plantes herbacées, donc on a quelques graminées, donc pas mal de graminées qui sont présentes, qu'on rencontre souvent en bord de route. On a aussi un certain nombre de plantes comme les impatiences. Il y a plusieurs impatiences qui ont un caractère envahissant. On a l'impatience de Balfour par exemple, avec de très très jolies fleurs blanches et roses, bicolores. Et puis on va avoir le sénesson du Cap dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une plante d'un jaune éclatant, qui est vraiment très élégante. Il y a eu aussi à un moment l'introduction en ornemental de bassin des juicies, qui sont des plantes jaunes qui sont très belles, mais on s'est aperçu très rapidement qu'elles posaient des problèmes extrêmement importants au niveau des pièces d'eau. Elle remplissait les pièces d'eau, les comblait à la fois en surface et en profondeur avec des gros problèmes d'écoulement d'eau, d'atterrissement des étangs et des coûts de gestion énormes. Et on est aujourd'hui très très embêté avec ce type de plantes-là. Et ce sont les jussies, il y en a deux, la jussie à grande fleur et la jussie à petite fleur ou la jussie rampante qui sont des plantes qui aujourd'hui sont réglementées, c'est-à-dire qu'il est interdit de les commercialiser, de les vendre et de les introduire en milieu naturel. Hein, c'est une réglementation qui date de 2007.
Comment on peut faire pour lutter contre leur invasion ?
Le premier pas à faire, c'est d'essayer déjà de comprendre. Est-ce que lorsque j'achète par exemple une plante, ben peut-être que maintenant il faut que je pose la question à celui qui me vend cette plante, les professionnels de l'horticulture, les professionnels de l'environnement, qu'ont-ils à dire par rapport à telle et telle espèce et aux problèmes qu'ils pourraient poser et susciter ? La liste de référence des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées, c'est 143 espèces. On ne peut pas éliminer et décider d'éradiquer 143 espèces. Il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut que l'acteur qui se charge de ça, que ce soit le particulier dans son jardin ou que ce soit une commune, un département, une agglomération qui décide de le faire sur ses espaces, sache pourquoi elle le fait, à quel besoin elle répond et pourquoi elle juge que c'est nécessaire de le faire sur son territoire. Ça peut répondre à des enjeux de santé publique, comme par exemple avec l'ambroisie. Ça peut répondre à des besoins de coûts économiques, comme la gestion des bords de route avec la renouée ou la gestion des étangs quand la Jussie arrive. Ça peut aussi répondre à des besoins de biodiversité pour préserver des ripisylves, ou ça peut aussi répondre à des besoins économiques pour préserver des aménagements qui sont en train d'être bouleversés, des aménagements paysagers par exemple qui peuvent être bouleversés par l'arrivée de certaines plantes. Je pense que ce qui est important dans ce domaine-là, c'est de trouver appui sur les bons relais. Et je pense que les bons relais, c'est le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, parce qu'on a été en charge de l'animation d'un plan régional d'action sur les plantes exotiques envahissantes, et que notre rôle, c'est d'identifier les espèces sur lesquelles il est important d'agir, les espèces à surveiller, et que c'est un cadre qui permet à l'ensemble des acteurs au niveau régional de partager de l'information sur leurs expériences de surveillance, leurs expériences de gestion. Et donc, s'appuyer sur le Conservatoire botanique, c'est possible aussi par Internet, qui se trouve sur PEE, comme plante exotique envahissante, .cbnpmp, donc comme Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, cbnpmp.fr.
Si je veux mettre une plante dans mon jardin ou dans ma marque, manger pour savoir si elle est envahissante.
Alors concrètement, avant de planter une plante sur son jardin, il faut regarder la liste sur Internet et il faut se tourner aussi vers son professionnel en termes d'horticulture pour savoir quoi faire, ou vers une association qui travaille sur ces questions-là dans votre région, les CPIE par exemple, parce qu'ils disposent d'informations importantes.
Merci beaucoup à Jérôme Dao pour toutes ces précieuses explications. Merci bien sûr à Chloé pour ses questions. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre Dame de Lotus d'Émilie Simon, mais également des extraits de Die Youngest de Marie Boyne, des extraits des musiques de films Massai composées par Yvan Cassar et La Clé des Champs composées par Bruno Coulet. Et peut-être aurez-vous reconnu les extraits des génériques des séries Les Envahisseurs et La Quatrième Dimension. C'était une émission proposée par l'ANA, réalisée par Carole Erskovici avec Julien Vergne à la technique. Merci encore de votre écoute.